Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Apprendre à mieux communiquer, d'accord. Mais en quoi est-ce en relation avec la création du bonheur? C'est exactement ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Bonjour, on continue encore sur cette vague des 30 jours pour vivre heureux avec le sujet de la communication aujourd'hui, apprenez à mieux communiquer. Donc, la question que j'ai posée dès le départ est parfois posée, se dire, mais en quoi si je communique mieux, je serai plus heureux, j'arrive pas trop à comprendre? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout simplement. D'abord, c'est important de savoir que l'humain est un être communicant. Un humain qui ne communique pas est en grande difficulté. Vous avez vu, comme si vous avez regardé le film Solo Monde, Robinson Crusoe. Voilà, on est dans cette même dynamique. Je crois que c'est Interstellar, pareil, qui parle de cet homme isolé dans l'espace. On a besoin de communiquer. Et comme l'humain a besoin de communiquer, s'il n'a pas les moyens de le faire, il va inventer des subterfuges pour y arriver. Parce que communiquer vient d'un verbe qui veut dire qu'en fait, on va devenir un avec l'autre. L'humain n'arrive pas à vivre la notion de solitude. On ne peut pas vraiment dire qu'on est heureux quand on est seul. On a besoin de faire corps avec quelqu'un d'autre. On a besoin d'appartenir à... de vraiment, même, je dirais même, communier. C'est-à-dire qu'on a une convergence d'état d'esprit, de manière de voir, de manière de vivre certaines choses. Même si de manière rationnelle, on sait très bien que la même manière de voir n'existe pas. Mais une manière de voir convergente, une manière de vivre convergente. Et ça, ça fait partie de l'ADN humain. On a besoin de ça pour se développer, pour être heureux. Alors, je vais aller directement moi, dans les outils que je vais vous proposer. Enfin, je vais vous en proposer un, en fait, que je vais décliner en quatre moyens pour y arriver. C'est le premier, d'être en connexion avec ses émotions. Il n'est pas possible de bien communiquer si on n'est pas en connexion avec ses émotions. Qu'il soit question d'une communication avec la personne qui est assise sur le banc que vous ne connaissez pas du tout à côté de vous, ou devant une audience de 10 000 personnes, la connexion à ses émotions est un facteur considérable pour favoriser une meilleure communication. Donc si vous voulez déjà apprendre à communiquer, vous avez cette première étape qui est colossale. Apprendre à vous connecter à vos émotions. Quand vous communiquez, je vais prendre l'exemple de la personne assise sur le banc avec vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse ou de la honte? Au passage, je viens de vous rappeler les 5 émotions de base. Vous comprenez, avec ce simple exemple, que si c'est moi qui suis assis sur le banc à côté d'une dame qui est là, qui attend le bus ou bien qui est dans un parc public, si mon émotion principale à ce moment-là est la joie, l'échange avec cette dame qui peut-être me pose une question ne sera pas le même que si mon émotion de base est la peur. Comprenez que la discussion va prendre une toute autre tournure. Peut-être même va avorter dans l'œuf. La communication est déterminée par ma capacité à me connecter à mes émotions. Si je prends conscience de mes émotions et que je comprends que j'ai peur, par exemple, que cette dame me dit « ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier » et que j'ai l'émotion de peur, ben, je vais peut-être avoir envie d'être très bref. Non. Et vous venez d'où? De Lyon. Et peut-être avoir envie de prendre mes jambes et de partir. Je l'ai fait un petit peu dur là, même si j'ai dit d'une manière plus légère. Hein, dit non. Vous venez d'où? Ben, de Lyon. Voilà. Mais ça ne change rien. Je vais être lapidaire parce que j'ai tendance, quand j'ai peur, à aller vers une action qui est l'action de protection. Parce qu'une émotion, je rappelle, génère automatiquement une action. Alors je dis je rappelle, mais je vais le dire peut-être pour ceux qui nous rejoignent sur les 30 jours pour vivre heureux. Une émotion, c'est un ressenti qui est en relation avec des pensées en amont. Donc vous voyez les pensées comme étant en amont, soit vers la gauche, soit vers le bas, soit comme vous voulez. Le schéma, vous le visualisez comme vous voulez. Mais avant l'émotion, il y a une pensée. Avant les pensées, il y a des croyances qui sont corrélées à des valeurs. Donc je pars de mes valeurs, qui vont vers mes croyances, vers mes pensées, mes émotions, et le résultat de mes émotions sont les actions. Ce qui signifie que je vais agir d'une manière particulière en fonction de mon émotion. juste la petite complexité quand même, c'est parce que l'humain est complexe, faisant partie de la nature qui elle-même est complexe, c'est que la même action peut être associée à plusieurs émotions. D'accord, je peux avoir envie de partir parce que je suis en colère, je peux avoir envie de partir parce que je suis triste, ou avoir envie de partir parce que j'ai honte, ou avoir envie de partir parce que j'ai peur, vous voyez. L'action peut être corrélée à plusieurs émotions. D'accord, donc c'est pas forcément pertinent de dire, voilà, comme il a agi de telle manière, ça veut dire qu'il est triste. Ah non, 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 pour savoir ce que la personne ressent, bah, c'est bien d'aller lui poser la question. Pour savoir ce que je ressens, c'est pareil. C'est bien que je me pose la question de savoir qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Quand la dame me pose la question de savoir est-ce que ça fait longtemps que je suis dans le quartier, qu'est-ce que je ressens ? Si je prends l'émotion de joie, ben, y a de grandes chances que je vais me tourner vers elle avec mon visage au lieu de, d'avoir envie de regarder loin ou de ne pas la regarder si j'ai l'émotion de peur. Déjà, quelque chose va changer dans mon action. Mais même si l'action était la même, parce que je peux la regarder en ayant l'émotion de peur, en disant je vais la regarder pour m'assurer qu'elle ne représente pas un danger pour moi et pour savoir à quel moment il est préférable que je parte en courant. Donc encore une fois, la même action peut être générée par des émotions différentes. Et donc elle va me demander, mais ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier ? Je peux répondre non, 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 ça fait pas longtemps. Et si c'est une émotion de joie, par voie de conséquence inévitable, la joie a besoin d'être partagée. Être heureux dans son coin, c'est trop dur, c'est une souffrance. Donc on a besoin de partager. Donc il y a très peu de chances que je dise non si je suis vraiment quelqu'un d'heureux à ce moment-là. Donc je dirais non, ça fait pas longtemps. Et vous ? Ou bien non, ça fait pas longtemps et je trouve ceci, je pense cela du quartier, etc. Alors, ça m'amène justement à la deuxième étape. Première étape, c'est la connexion à ses émotions. Quelles sont vos émotions ? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là ? Comment je me sens ? Dans quel état ? Quand mon patron vient me voir dans mon bureau et qu'il me dit telle et telle chose, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je ressens ça ? Je vais dans mes pensées et dans mes croyances pour savoir pourquoi. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Déjà, savoir, j'agis comme ça par rapport à telle émotion. J'apprends à me connaître. Ce qui signifie que probablement, quand je vais me retrouver dans une situation dans laquelle je referai telle et telle action, je pourrais peut-être me référer en me disant, tiens, j'ai fait telle action, mais ce n'est pas la même émotion. Qu'est-ce qui se passe ? J'apprends encore à connaître un nouveau pan de moi-même. Et je sais que plus je me connais, mieux je me connais. Donc, plus justement je me connais, mieux je communique. Apprenez à mieux communiquer. Commence par apprenez à vous connecter à vos émotions. Première étape. Pour savoir qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Sachant que les émotions peuvent changer en quelques fractions de seconde. Hein. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Et en plus, il peut y avoir cocktail d'émotions. Je ressens en même temps de la joie et de la honte. Ça peut faire un cocktail assez sympa. Ou de la colère, de la tristesse, de la honte, ou de la peur et de la colère. Ou de la tristesse et de la peur. On peut avoir ce que j'appelle un cocktail d'émotions et que ça peut être donc plus compliqué à lire. Mais ça n'empêche, lisons nos émotions pour apprendre à nous connaître parce que nous savons que ça nous permettra de mieux communiquer et par conséquent de développer notre bonheur parce que je suis en relation avec moi-même, que j'arrive à me lire, à me comprendre et à être en relation communicationnelle plus juste avec la personne en me disant peut-être que au lieu de l'insulter, vu que je sens que c'est pas le moment, eh ben je vais partir parce que je ressens beaucoup de colère. D'accord. Deuxième étape pour mieux communiquer. C'est une voie de conséquence de la première. C'est que je prends conscience de la différence entre « c'est comme ça » et « je ressens ça ». Quand je me connecte à mes émotions, je prends conscience que je ressens ceci ou cela. Et par conséquent, l'événement qui va se produire devant moi, quand je suis pleinement conscient du fait que c'est ma perception émotionnelle, l'événement qui se produit devant moi donc devient un événement interpréter. Quand je suis conscient que j'interprète ce qui se passe autour de moi, eh bien, je peux mieux communiquer. Je reprends l'exemple de cette dame qui est assise sur le banc à côté de moi dans le jardin public, et on va supposer que la communication, la conversation s'est poursuivie, et qu'elle me dise « qu'est-ce que vous pensez de ce quartier ?» parce que vous dites « ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé là ». Je peux lui dire « pour moi, ce quartier, il est comme ci, il est comme ça, et ça c'est nul, et ça c'est bien ». Et être en déconnexion avec la réalité qui est que c'est ce que je ressens. Je ne suis pas en communication, en connexion, en relation avec mes émotions. Si j'exprime, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est top. C'est pas une relation avec mes émotions. Parce que quand je suis en relation avec mes émotions, en connexion avec mes émotions, je sais que c'est ce que je ressens. Ce n'est pas ce qui est. Par conséquent, je prends un autre exemple, ce gâteau n'est pas dégoûtant. Je ne l'aime pas. La preuve en est que une autre personne peut l'aimer. En me connectant à mes émotions, je prends conscience que je suis un « je ». Et par conséquent, je ne suis pas la norme. Je ne peux pas dire « c'est bien, c'est mal, c'est top, c'est nul, c'est excellent, c'est mauvais ». Je vais exprimer les choses en « je ». J'apprécie, je n'apprécie pas. J'aurais préféré que je n'aime pas. Je trouve cela top, je trouve cela minable ou mauvais. Et « je » fait que je suis en permanence, en conscience d'être en connexion avec mes émotions. Par conséquent, d'adopter un regard qui m'appartient à moi et à moi seul. Ça m'amène à la troisième étape qui est de prioriser le « je ». Je donnerai la priorité à « je », c'est-à-dire à moi. Et par conséquent, je vais être conscient d'être en relation avec un « je ». Donc c'est « je » qui rencontre « je ». Je suis le je qui rencontre l'autre je qui est sur le banc à côté de moi. Ce qui signifie que l'expression de cette dame qui est assise sur le banc à côté de moi correspond à sa perception des choses. Je l'accueille comme étant sa perception, son regard, sa manière de voir en connexion avec ses émotions. Elle ne dit pas la vérité. Elle dit ce qui, d'après son angle de vue, son regard correspond à sa manière de voir les choses, de vivre les choses en relation avec ses émotions, ses pensées, ses croyances et ses valeurs. Ça veut dire que je vis la même chose qu'elle, finalement. Quand elle me dit que dans ce quartier, elle trouve que ça, c'est génial, etc., etc., eh bien, je sais qu'elle parle de « je », de son « je » à elle. Elle ne parle pas de moi. Elle ne parle pas du quartier. Elle parle d'elle. Et quand je lui donne mon avis sur le quartier, sur ce que je ressens, perçois du quartier, je sais que je ne parle pas du quartier. Je parle de moi. Je parle de « je ». Et là, on est dans une véritable rencontre. Un « je » rencontre un « je ». Vous comprenez que si je parlais du quartier et qu'elle parlait du quartier, finalement, nous pourrions ne pas nous rencontrer. Quelque part, entre nous deux, il y aurait un obstacle qui s'appelle le quartier. Elle me parle du quartier, je lui parle du quartier. Nous rencontrons-nous ? Pas forcément, non. Nous utilisons le quartier comme un moyen pour meubler, peut-être pour faire mine de se rencontrer, mais nous ne nous rencontrons pas vraiment. Nous nous rencontrons quand je rencontre son « je ». Quand je lui parle de moi et qu'elle me parle d'elle. Je lui parle de mon regard sur le quartier et qu'elle me parle de son regard sur le quartier. Je lui parle de mes émotions, elle me parle de ses émotions. Il y a la rencontre de deux « je ». Quand je rencontre « je ». Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ce que je viens de partager avec vous. Premièrement, on se connecte à ses propres émotions. Deuxièmement, on prend conscience de la différence entre ce que l'on ressent et ce qui est. Troisièmement, on donne la priorité à la rencontre de deux personnes. En étant conscient qu'on ne va pas utiliser un objet autre comme barrière de protection respective qu'on va mettre entre nous deux, on est vraiment dans une rencontre de personne à personne. Cela aura pour conséquence de réduire le nombre d'occasions de se sentir blessé. Pourquoi ? Parce que, à supposer que j'aime considérablement ce quartier, je trouve qu'il est superbe, même si ça fait très peu de temps que j'y suis, et que cette dame passe son temps à critiquer, en disant « Non, ce quartier, il est nul, de toute façon, il n'y a que de la racaille, c'est minable, c'est un coin pour pauvres et pour paumés, etc. » Si je ne prends pas conscience qu'elle est en train de parler en « je », d'exprimer ses émotions, et que je suis convaincu qu'elle est en train de parler de mon quartier, celui que je chéris, que j'aime à la folie, je me sentirais blessé. Par contre, si je prends conscience qu'elle est en train de me donner son témoignage, son expérience, c'est son « je », ses émotions, et que je sais ne pas savoir ce qu'elles sont ses pensées, son expérience du quartier qui fait qu'elle en est là, quelles sont ses croyances, ses valeurs, etc. Et que je le prends comme un « je » qui rencontre un « je », je pourrais écouter cette dame sur le banc et saisir cette opportunité d'une dame qui me parle du quartier en termes négatifs comme une occasion d'apprendre à la connaître comme à me connaître. Je vais découvrir peut-être grâce à elle, ou en partie grâce à cet échange, que finalement j'aime ce quartier. Et que je sens en moi vraiment un attachement pour ceci, pour cela, et que je l'aime pour telle et telle raison, etc. Ça dépend de l'endroit où j'étais, ça dépend de mon parcours, de mon histoire de vie. Peut-être que j'étais dans des quartiers qui ont fait que, en contraste, celui-ci jure avec celui dans lequel j'étais et jure en point positif, donc je l'aime. Peut-être que j'étais en continuité dans lequel j'avais vécu dans des quartiers qui avaient des points communs avec celui-ci, dans lesquels j'ai vécu des choses magnifiques qui font que, et retrouvant ces quelques points communs dans le quartier présent, eh ben, je l'aime. Mais cette dame n'est pas je, elle n'est pas moi. Elle a tout à fait légitimité d'avoir ses propres émotions et par conséquent son expérience par rapport au quartier, son avis qu'elle exprime en jeu. Et même si elle ne l'exprime pas en jeu, je peux avoir l'intelligence de me dire, elle critique le quartier, elle ne se rend pas compte qu'elle pourrait parler en jeu, mais moi qui suis dans une démarche de développement personnel pour créer mon bonheur dans mon quotidien, j'entends bien que même si elle n'a pas cet outil pour le faire, elle est en jeu, c'est son témoignage. Par conséquent, c'est une occasion pour moi d'apprendre à me connaître, à savoir ce qui se passe dans ma vie quand on parle de ce quartier en termes négatifs, mais d'apprendre à la connaître dans ce qu'elle vit, elle, dans ce quartier. Premièrement, je me connecte à mes émotions et j'entends, même si les gens ne sont pas conscients, que quand ils me parlent, ils se connectent à leurs émotions. Deuxièmement, je prends conscience de la différence entre « c'est comme ça » une approche objective, à supposer que ça puisse exister, et une approche subjective, « je ressens ça », connexion à mes émotions. Troisièmement, je donne la priorité à la rencontre de deux personnes et non pas d'une personne par rapport à un objet ou à un mur objet placé entre deux sujets. Et quatrièmement, je saisis les opportunités d'apprendre à me connaître et à connaître cette personne. Je suis conscient que je suis le centre de mon monde. Je ne peux pas vivre en n'étant pas le centre de mon monde, ça n'existe pas ça. Impossible! Vous ne pouvez pas vous décentrer de votre propre monde. Par conséquent, votre perception sera forcément attachée à votre centration du monde. Vous êtes naturellement égocentré. Allez écouter le rendez-vous dans lequel je vous dis soyez égocentrique. Vous comprendrez que vous ne pouvez pas ne pas être égocentré. Ce n'est pas négatif. C'est que votre perception du monde ne peut venir que de votre angle de vue. Vous ne pouvez voir le monde qu'avec vos yeux. Vous ne pouvez percevoir le monde qu'avec vos émotions, votre expérience, votre histoire. Vous ne pouvez pas le faire avec l'expérience et l'histoire de quelqu'un d'autre. Même si vous regardez un film ou un reportage qui parle de la vie de quelqu'un d'autre et de ce qu'il a vécu, par exemple, de difficile, que ce soit pendant la guerre, que ce soit pendant la famine, pendant une épidémie, que sais-je, vous avez le regard de cette personne, mais le regard de cette personne, vous le regardez forcément avec votre propre filtre de votre expérience, de votre histoire, de votre ressenti, etc. etc. Si vous êtes conscient de ça, vous revivrez les choses autrement. L'autre, la personne qui est en face de vous, donc l'autre je, ne peut pas faire autrement que d'être au centre de son monde. Et quand je prends conscience que ce sont deux mondes qui se rencontrent, deux mondes qui essaient de communiquer, et que ces deux mondes ne peuvent pas être les mêmes, eh bien peut-être la communication s'améliore. J'apprends à mieux communiquer. J'apprends finalement à mieux accueillir l'autre comme il est. J'apprends aussi à mieux m'accueillir moi-même comme je suis, avec mes émotions, avec bienveillance, sans aucun jugement de ce que je ressens, sans aucun jugement de ce que la personne exprime et ressent, surtout si, comme je viens de le dire, elle n'a pas été équipée pour apprendre à s'exprimer en je, apprendre à regarder qu'en fait, ce qu'elle est en train de dire ou de critiquer sur mon quartier correspond à sa perception, pas à mon quartier. D'ailleurs, c'est intéressant d'utiliser le possessif. Ça veut dire qu'il y a déjà un attachement, un besoin d'appartenance, comme je disais au tout début de ce rendez-vous. Mais je vais vous laisser avec un exercice. Et vous n'avez pas besoin de votre cahier de vie pour cet exercice. Vous pouvez directement le faire en live. Peut-être pour vous aider, vous pouvez prendre un stylo et vous amuser à faire une coche dans la paume de votre main. Vous voyez, je pense à la partie charnée sur le pouce ou un endroit où vous voulez. À chaque fois dans la journée, vous avez une opportunité d'être en relation avec quelqu'un et que vous voulez centrer votre attention sur le ressenti pour améliorer votre communication en étant sur le je qui rencontre un je, vous pouvez faire une petite coche dans votre main. Voilà. Vous avez discuté avec votre boucher, vous avez dit alors, comment allez-vous ? Bah, écoutez, ça va, c'est un petit peu dur aujourd'hui. Et voilà. Comment pouvez-vous vous engager dans une communication en je ? Vous avez une idée ? Allez, je vous aide. Centrez-vous sur la personne, sur ce qu'elle ressent. Elle vous a dit que c'est un petit peu dur. Ah, vous avez le sentiment de commencer la journée avec difficulté, c'est ça ? Et la personne va parler en jeu. Mais qu'importe, le mieux c'est que vous parliez vous-même en jeu. Ah, j'entends ce que vous dites et je voudrais vous dire que je vous souhaite du courage et que vous arriviez peut-être à poursuivre cette journée avec plus de paix, d'enthousiasme et de joie. Je. Et vous faites une coche dans votre main. Puis votre fiston, il arrive de l'école, il vous dit « Papa, maman, j'ai vécu ça, tout ça. » Ah, comment vous pouvez communiquer en jeu ? Ah, je ressens de la peine d'entendre que tu te trouves triste parce que ton copain t'a dit ceci. Ou bien, je suis vraiment heureux d'entendre que ça t'a fait plaisir que... Vous voyez, quel que soit le chemin, vous pouvez utiliser le jeu d'une manière ou d'une autre pour vous mettre en relation avec les personnes d'une manière vraiment différente. À chaque fois que vous communiquez en jeu, pensez à mettre une petite coche dans votre main pour arriver à la fin de la journée en vous disant « Vous savez, j'en ai fait 5, 6, 7. » Et si vous avez galéré, eh bien, tant pis, tant mieux, continuez. Parce qu'en fait, c'est à l'entraînement que vous arriverez à vous communiquer, à vous connecter à vous-même, à vos émotions, à percevoir les conséquences de cette connexion qui fait que vous êtes en mesure de faire la différence entre votre ressenti et l'événement, de prioriser la relation sans prioriser l'objet qui se trouve entre vous deux, et puis de saisir cette occasion pour moins vous sentir blessé et apprendre davantage à vous connaître et à connaître les personnes qui sont relâchées avec vous. Allez, je vous dis à demain. Vous êtes arrivés jusqu'au bout, je vous remercie. Je compte sur votre collaboration pour partager ce rendez-vous, le faire connaître et mettre vos 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast, toute application de podcast que vous utilisez. Prenez celle que vous préférez et allez-y, j'en ai besoin pour continuer à être découvert par des personnes qui sont en recherche de développement personnel pour créer leur bonheur.